c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte?
C'est pas une œuvre d'art.
Si, un site est une œuvre d'art.
L'air est pur, tout est calme, je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Vous les voir, mes 400 têtards. C'est nickel.
CO2, mon amour.
Il n'y a plus une herbe, plus un animal. Yeah. Avec le Xerox 3000. Ah, ça, ça te nettoie tout.
Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants. Le teint vif. Et ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent.
Avec Denis Chessou.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2, mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement et que nous sommes, mais oui, et oui, c'est nous aussi donc le changement. À la technique aujourd'hui, il y a Mathias Saléon et assisté de Camille Blanès, c'est Marie-Hélène Fauquet qui réalise l'émission. Qui commence bien sûr par une petite humeur. Alors, deux rugies, a priori, si vous voulez, ça impressionne. Ça fait lion de l'Atlas, ça fait tigre du Bengale. Enfin, ceux qui sont restés en vie. Ça fait félin tacheté, felant dans la nuit politique. En tout cas, on l'a descendu de son perchoir, qui est plutôt un lieu pour volatiles colorés. Mais va-t-il remonter sur un autre perchoir? Sans préjuger de rien, va-t-il rester bien sage, perché sur l'épaule de son maître qui décide et centralise tout? Ah, c'est sûr qu'il risque pas de claquer dans les doigts de la présidence en annonçant sa démission un matin sur France Inter. Alors, ira-t-il jacassant et quémandant des graines de tournesol bio aux visiteurs lobbyistes? Ou va-t-il s'envoler, puissant et majestueux, vers la canopée pour prendre de la hauteur et jeter un œil sur l'état de la forêt? Alors, le perroquet possède, on le sait, un bec redoutable, parole de pistache, sauf si on lui hime le bec et qu'on lui entrave les papattes dès le départ en lui indiquant la ligne atomique à ne jamais franchir. Alors écoutez, dossier nucléaire, on réduira comme on l'a dit, mais comme on ne le fera pas avant, au minimum 2035. Alors oui, on fermera une douzaine de réacteurs et on construira 6 EPR minimum à 10 milliards pièces minimum aussi. Je pense que vous avez compris, un peu de langage cosmétique là-dessus, monsieur le ministre, et les neutrons seront bien gardés. Rappelons quand même que les investissements dans les énergies renouvelables en 2017 et 2018 dans le monde ont dépassé ceux des fossiles, qu'on est à 2 centimes du kilowattheure avec le solaire au Chili et qu'EDF, qu'il faut bientôt sauver, est un gouffre financier. De Rugy comme Hulot n'est pas du tout réputé pro-nucléaire, loin de là. Il essaye de la prouver, en tout cas chez les Verts, c'était pas sa cam. Notre-Dame-des-Landes non plus, qu'il a combattu, ce qui lui a coûté d'ailleurs sa succession, la succession à la mairie de Nantes. Alors peu de big et peu de bang à attendre en souhaitant se tromper. Et réunissons main dans la main nos deux amis, économie avec un grand E, écologie avec un petit E.
Ça doit être un engagement constant de chacun, aller vers une mondialisation verte qui permette de continuer à avoir des échanges entre les hommes et entre les continents.
Alors, mondialisation verte, ça je connaissais pas, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble quand même à un très bel oxymore hein, de la part de notre ministre de l'économie. Ça donne le ton quand même, là aussi, cette semaine. C'était lors de l'inauguration au Havre du navire Made in France, qui transportera 21 000 containers Made in China. C'est qui a la plus grande? C'est qui a le meilleur? Eh ben, c'est mon papa qui a le troisième plus gros porte-container du monde. Toute la machine s'emballe alors que des bateaux, grands comme des terrains de poule de football, portent notre avenir et nos espoirs remplis de t-shirts coûtant 2 euros et revendus 25. Alors, si un de ces bateaux coule, ce que l'on ne souhaite pas, hein, sincèrement, ça on ne souhaite pas, bah, ça nous fera un atoll géant au milieu du Pacifique, autour duquel les petits poissons et les tortues viendront musarder. Ah, s'il reste encore un peu d'eau fraîche et d'oxygène au milieu de la soupe de plastique et des splendides irisations d'hydrocarbures. Et quand même, comble de douce ironie, ce fameux navire se nomme le Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui écrivait « On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants ».
Je pense que c'est ça qui doit être au centre. Si on continue à dissocier le problème écologique du problème économique, ça ne se fera jamais. En ce sens, Hulot ne disait pas que des bêtises, qu'on l'a tout de suite traité de type qui était caractériel, etc. C'est facile, mais c'est vrai que lorsqu'il mettait ça en problème, en question, c'était très intéressant.
Jacques Weber, chez Nagui. Notre nouveau ministre de la Transition environnementale est arrivé en voiture. Alors, faut dire que de l'Assemblée nationale à l'hôtel de Roquelaure, boulevard Saint-Germain, il y a quand même bien 800 mètres entre les deux. Bon, on n'a peut-être pas toujours le même sens des symboles les uns les autres. François de Rugy jouait du marteau à l'Assemblée nationale pour canaliser la parole. Alors, monsieur le ministre, n'hésitez pas, enfoncez le clou avec le même marteau pour au moins freiner la casse du monde, pour éviter que le monde se défasse, comme nous disait Camus.
Bonjour Denis, je suis contente de retrouver CO2 mon amour après de grandes vacances. Une annonce pour tous les Nivernais et ceux qui habitent autour de Nevers. Samedi 8 septembre à 15h à Nevers, square de la Résistance, à côté de la préfecture, il y a un grand rassemblement organisé par la LPO Nièvre, un grand rassemblement pour le climat. En parallèle avec la marche sur le climat, on demande à tous les Nivernais de venir et de demander au pouvoir public de lutter contre l'érosion de la biodiversité et pour le climat. Merci Denis de transmettre ce message et à bientôt.
Alors cet après-midi, c'est bien à pied qu'on manifestera un peu partout. On marche donc pour le climat. S'il y avait aujourd'hui en France 1 100 000 marcheurs, il y aurait peut-être une espèce d'équilibre avec le nombre de chasseurs, donc premier écologiste de terrain, toujours amoureux de la chasse aux oiseaux à la glu. Alors le climat, la planète, c'est vrai qu'on y tient, parce que même avec nos contradictions qu'on a tous, on n'a pas le choix, on n'en a qu'une. Et dans cette société comptable, on y sera aussi pour se compter, petit et grand, en espérant que l'insouciante Europe obsédée par la dette suive et vienne grossir la houle dans un spot grandiose. Parce qu'en face, les armes du cynisme et de l'ironie sont prêtes. Il ne manquera pas de grincheux pour ricaner qu'un simple match de foot, l'enterrement de Johnny, à eux seuls, remue bien plus de foule. Alors les petits pas en faveur de l'écologie, je crois qu'on l'a compris, ils ne sont pas suffisants, nécessaires mais pas suffisants. Ça fait déjà au moins 5 présidents où c'est comme ça. Et puisque nos gouvernants affirment être autrement préoccupés par le climat, la biodiversité, socle de nos vies, être en marche aujourd'hui, ça aurait peut-être du sens.
France Inter, CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Et on va parler donc herboristerie aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, donc ce sera après la première chanson. Mais quand même, donc vous signalez que nous allons avoir en ligne Corinne Imbert, qui est la présidente de la mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales, des filières et des métiers d'avenir. Elle-même sénatrice LR de la Charente-Maritime. Joël Labbé avec nous, sénateur du Morbihan et rapporteur de la dite mission. Et aussi, on lui doit d'ailleurs la loi Labbé, qui quand même nous permet de ne plus avoir de pesticides dans les communes. Ceci depuis déjà le 1er janvier 2018. Nous avons Gilles Bonnefond, qui est le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, car il nous fallait bien sûr le sentiment aussi des pharmaciens. Je tiens à dire tout de suite que l'ordre des pharmaciens, je parle bien de l'ordre et pas des syndicats, est aux abonnés absents, puisque donc nous avons téléphoné pour les avoir. Ils ont dit non, il n'en est pas question, on n'a pas envie de parler. Parfait. Et Thierry Thévenin, donc avec nous, paysan herboriste dans la Creuse, à Mérinchal, qui a créé aussi l'association des vieilles racines et des jeunes pousses, qui a écrit chez Actes Sud « Plaidoyer pour l'herboristerie ». Alors peut-être Thierry Thévenin, d'abord avec vous dans ce studio, à quoi ressemble votre lieu lorsque l'on fait des plantes médicinales et pourquoi vous êtes tombé dedans depuis longtemps ?
Ça ressemble à un jardin, un grand jardin, avec un assez grand nombre de plantes. Et puis au milieu d'un pays où c'est un pays d'élevage, avec encore un peu de forêt, même si on lui fait des misères en ce moment. Donc avec une flore assez diversifiée.
On est sur le plateau des Mille Vaches ?
Je suis juste entre le plateau des Mille Vaches et les volcans.
D'accord.
Je suis à mi-chemin entre les deux, donc c'est vrai que pour la cueillette, c'est assez pratique.
On a d'un côté, on a de la lave, on va dire, et de l'autre, on a du granit.
Exactement, le premier volcan est à 15 km de chez moi, et donc je suis vraiment juste un peu entre les deux.
Ouais. Et alors, vous travaillez combien de plantes ?
Alors, je fais une gamme de tisanes, en fait. C'est très simple, mon métier est très simple. Je cultive des plantes, ou je les cueille, je les sèche pour en faire des tisanes. Donc c'est à peu près 80 espèces. Mm-hmm. Et après, j'en cultive un peu plus aussi pour le plaisir dans mon jardin, et puis pour observer, parce que c'est vraiment un monde mouvant, les plantes, ça bouge en ce moment. Cette année, il y en a qui sont très malheureuses, cet été, à cause de la sécheresse. On attend la pluie là depuis des semaines. Il y en a d'autres, au contraire, qui aiment ça. Donc c'est quelque chose qui est pas figé, puis c'est aussi un peu comme un terrain d'expérimentation quand on travaille avec le vivant. Là, on voit vraiment les choses bouger.
Et alors, Thierry Thévenin, donc aujourd'hui, quel statut vous avez, vous ? Vous êtes donc paysan herboriste, comment on pourrait dire ?
Alors officiellement, devant la République, je suis agriculteur. J'ai un statut d'agriculteur.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est un métier qui me pose souvent cette question-là. parce que en fait on a du mal à le situer, ça fait des siècles que ça dure. C'est vrai que pour le public, on aurait plutôt tendance à me rattacher au bien-être, voire à la santé, même si c'est un mot qui fâche, il faut faire attention quand on l'emploie. Oui. Mais officiellement, donc, je suis agriculteur, parce que je produis donc des produits agricoles. Et effectivement, les tisanes sont des boissons, sont bues depuis les débuts de l'humanité, et c'est un produit agricole.
Alors donc, d'où cette mission d'information qui est tout à fait intéressante. Donc on va en parler dans quelques instants, et puis aussi tout au long donc de cette émission, on pourra retrouver aussi donc la voix de Jean-Marie Pelt. Nos invités sont à la fois autour de la table, sont de l'autre côté du fil. L'herboristerie, on va dire, non pas mode d'emploi, mais quel métier demain, point d'interrogation. On en parle avec nos invités après cette merveilleuse et première chanson. Oh bah tiens, c'est un gars de l'Auvergne, c'est ça, c'est Jean-Louis Murat. Bah ben voilà, on y va alors.
Sitôt perdu en France en homme, je me trouvais la maladie. Tout en ancien air en nuage, j'allais le visage enfoui. Au crépuscule passe une âme, tout se voile de mélancolie. J'allais au projet indéniable pour toute chose. Ce boucan infernal, toutes les bêtes prennent la fuite. Quelle nuit précaire dans la montagne, je vis comme un mort, je te dis. Collé aux choses, allez mon âme, prise dans cette supercherie. Au cinévox, farfouille l'âme, dans sa. Personnage au cinévox au paradis. Passé mes crises misérables, je m'y glissais comme en un lit. Alors si grand malheur était de ne pas se sentir aimé, je me glissais comme en un rêve, me glissais dans une autre vie. Se séparer de tout ce qu'on a aimé. Les souvenirs d'un palais, l'art d'écrire d'un écuyer. Au cinévox, comme on regarde, comme on voyage jusqu'au glacier. Quel jeune enfant promenade qui ne peut feindre se séparer.
Eh bien, c'était Cinévox, me semble-t-il, et c'était donc Jean-Louis Murat.
La vitrine de l'herboriste est encombrée comme un grenier de campagne.
CO2, mon amour.
Le tilleul de l'année sèche sur une claie. La bourrache est accrochée à une solive avec la fougère, la menthe, la mélisse et la camomille. Et que de choses sur cette table et dans ces boîtes de fer blanc. Quelqu'un peut être malade à la ferme. Nous avons une collection d'herbes dont nous connaissons les vertus. Pas besoin de médecin. D'abord, madame, les médecins n'ont rien inventé. On peut guérir toutes les maladies avec des plantes.
Denis Chessou, sur France Inter.
Oui, oui, ça date un petit peu, ça. C'est avec le début de la radio, hein, vous avez compris, au niveau du ton. Donc, vous prendrez bien une petite tisane. Alors, aujourd'hui, on est très loin du pisse-mémé, hein, qui désignait avec le sourire les infusions de nos grands-mères. Non, plantes médicinales, aromatiques, ont infusé dans les esprits et les corps. Alors, besoin de naturalité, d'écologie, il y a eu aussi des scandales de l'industrie pharmaceutique, rejet même aussi irrationnel, hein, de la chimie. Bref, beaucoup de Français et aussi beaucoup de jeunes, hein, maintenant, souhaitent soigner leurs maux quotidiens avec les plantes. Ça, c'est le fait de société. Le métier d'herboriste n'est plus reconnu aujourd'hui depuis 77 ans. La dernière herboriste officiellement reconnue en France est éteinte au mois de janvier dernier à 97 ans. Donc, elle emportait avec elle son métier. Et Marie Roubieux, donc c'était le nom de cette femme, avait obtenu son diplôme officiel d'herboriste avant que le régime de Vichy ne l'abolisse en 1941 au profit des pharmaciens. Donc, dorénavant, à cause de la profession du diplôme d'herboriste, bon, pas plus personne n'est autorisé à vendre une plante en tant que remède, mis à part les pharmaciens en officine. Donc pourquoi cette émission maintenant, sur un sujet peut-être dont vous ignoriez en partie l'existence ? Eh bien parce qu'une mission sénatoriale qui est transpolitique, je tiens vraiment à le marteler, de 27 membres a auditionné une soixantaine d'acteurs, acteurs du métier, donc vendeurs, médecins, pharmaciens, producteurs de plantes, industriels, et des parlementaires souhaiteraient redonner un statut à cette profession. Quels sont les risques, les avantages, les possibles, les intérêts des uns des autres ? Eh bien, avant la sortie de ce rapport, nous allons donc en parler. Je le disais avec Joël Labbé, donc sénateur du Morbihan et rapporteur de la mission. Thierry Thévenin, paysan herboriste que vous avez entendu. Gilles Bonnefond, que je remercie en tant que président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, parce que l'Ordre des médecins, je vous le disais, n'a pas voulu intervenir. Et Corinne Imbert, que nous avons en ligne, sénatrice L.R. de Charente-Maritime et présidente de la dite mission. Quelle a été l'idée, Corinne Imbert, s'il vous plaît, donc de cette mission ? Vous vouliez mettre quoi sur la table, en fait ?
Bonjour Denis Kessou et bonjour à tous vos invités, notamment à mon collègue Joël Labbé, ah oui, à Thierry Thévenin que nous avons invité et à tous vos auditeurs. Cette mission dont l'intitulé est une mission d'information donc du Sénat sur l'herboristerie et les plantes médicinales des filières et des métiers d'avenir. En fait, elle a été créée à l'initiative du groupe auquel appartient Joël Labbé, hein, dans le cadre d'un droit de tirage prévu dans le règlement du Sénat, où un groupe peut demander la création d'une mission d'information. Et j'ai l'honneur de présider cette mission. Donc, cette mission est à l'initiative, en tout cas, le thème est à l'initiative de Joël Labbé et de son groupe au Sénat.
Et alors donc, maintenant, l'idée c'est de faire donc un inventaire, on va dire, des possibles, à la fois des filières d'un côté, des métiers de l'autre.
Alors, donc, une mission qui était très large, hein, avec deux grands axes, effectivement. Un aspect filière économique, et puis un aspect métier, avec, effectivement, sur la table, le métier d'herboriste. Alors, vous me pardonnerez peut-être un petit peu de réserve de ma part, puisque je préside cette mission. Joël Labbé, qui s'exprimera tout à l'heure, en est le rapporteur. Mmh. Il va présenter son rapport à la mission à la fin septembre. Donc, à l'heure où nous parlons, son rapport n'a pas été présenté aux autres sénateurs membres de la mission. Voilà, en tout cas, à titre personnel, je veux dire tout le plaisir que j'ai eu de travailler avec Joël, tant au niveau des auditions qu'au cours des deux
déplacements. Mais comme vous êtes aussi pharmacienne, donc, en Charente-Maritime, c'est aussi intéressant, donc, d'avoir aussi votre point de vue. Mais on comprend parfaitement, donc, ce devoir de réserve. Joël Labbé, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, sénateur du Morbihan et rapporteur donc de cette mission, on vous doit donc effectivement cette fameuse loi Labbé qui a fait quand même pas mal de bien aux collectivités. Et ça a râlé dans tous les sens au départ et puis après, bah voilà, on s'y met et aujourd'hui, donc, on n'a plus de pesticides dans l'entretien, on va dire, des collectivités aujourd'hui. Ça, c'était vraiment un de vos combats. Et puis là, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de remettre en avant la profession d'herboriste, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, de voir qu'on est dans un flou, que se passe-t-il ?
Eh bien, c'est un sujet, c'est un vrai sujet de société. Lors du dernier mandat où je me suis intéressé aux pesticides, j'ai été interpellé par des professionnels de l'herboristerie en tant que parlementaire pour me dire qu'il y avait un véritable problème de quelque part de non-droit ou de flou législatif avec la nécessité de légiférer. J'arrivais en fin de mandat et je me disais il va falloir user de stratégie et je me suis engagé lors du dernier mandat mandat, si j'étais réélu, ce qui n'était pas gagné d'avance, à m'intéresser à ce sujet. Donc j'ai revendiqué et demandé la mise en place de cette mission auprès de mon groupe, mission d'information sur les plantes médicinales, l'herboristerie, les plantes médicinales, métiers, formation et filières d'avenir. Donc on en est à ce premier stade. Comme ça a été dit, comme l'a dit la présidente Corinne Imbert, c'est le 25 septembre où le rapport va être soumis à l'avis de la mission. Et ensuite, eh bien, on peut évoluer, et c'est mon souhait d'ailleurs, vers le contexte législatif par une ou des propositions de loi. Et la question de la reconnaissance du métier d'herboriste, ou des métiers d'herboriste d'ailleurs, est véritablement posée, parce que nous sommes politiques depuis 41 que le métier a été interdit et n'est plus du tout reconnu. Il y a eu un certain nombre de demandes, de velléités, et tous les ministres de la Santé, qu'ils aient été de gauche ou de droite, ont fait la sourde oreille à toute demande et toutes les velléités. La dernière,
c'était mon collègue. Ça va être intéressant de savoir pourquoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais est-ce que derrière, d'ailleurs, on va interroger aussi Gilles Bonnefond, hein, donc sur le sujet, qui est aussi quelqu'un qui s'intéresse vraiment de très très près aux plantes. Mais est-ce qu'on garde une espèce de monopole, c'est ça, aujourd'hui ou pas?
Oui. Alors, pour moi, il y a la question du monopole, qui est une véritable question. Pourquoi toute cette histoire ou cette non-histoire qui n'a pas évolué? Mon sujet, c'est de moi, je regarde vers l'avenir, oui, et de se dire, il y a un sujet, on le prend à bras le corps, on le met à plat, on l'analyse et on voit ce que l'on peut faire. Pour moi, la question, c'est la reprise en main du politique pour faire de la politique. Là, on est dans un sujet politique. On sait qu'il y a des influences économiques et financières derrière tout ça. Les questions des monopoles. Moi, je veux faire table rase de tout ça, sans tirer à boulet rouge sur quelque profession que ce soit. On met à plat et on regarde dans le sens du bien commun, de l'intérêt général, de l'intérêt des générations futures. Comment on peut faire pour évoluer?
Alors Thierry Thévenin, donc, je me retourne vers vous. Donc paysan, je vous le rappelle, dans la Creuse, vous êtes à Mérinchal. Aujourd'hui, on constate quand même que 80% des plantes sont importées. Pourquoi ça? Parce qu'on peut se dire qu'on en a assez, non? On pourrait les produire ou pas chez nous en France?
La première chose qui va expliquer ça, c'est, comme ça explique beaucoup de choses, c'est l'argent. En fait, les plantes produites en France sont souvent plus chères que certaines plantes d'importation. Donc ça, déjà, c'est une explication. Et puis, c'est vrai que faut avoir une certaine ténacité pour se lancer dans ce métier. C'est quand même une filière qui est très dynamique, hein. C'est une des filières les plus dynamiques dans l'agriculture. Les surfaces ont augmenté de 30% là en quelques années, ce qui est tout à fait intéressant quand on voit le reste de l'état de la filière agricole. Mais il faut une certaine ténacité. C'est une filière qui est pas aidée. Il y a pas d'aide à la production. Ça peut être une... Pour moi, c'est pas forcément toujours une mauvaise chose, d'ailleurs. On vit vraiment de notre métier, de notre production. Mais quand même, c'est compliqué. Et aussi, bon, il faut voir que 90% aussi des plantes qui sont consommées sont souvent des plantes un peu d'origine industrielle. Soit elles sont produites d'une manière très mécanisée, et la France n'a pas forcément soutenu cette filière-là, ou alors elles proviennent de pays à bas, où la main-d'œuvre est à bas coût, quoi. Oui. Donc je pense que la première explication, c'est d'abord l'argent.
Alors Gilles Bonnefond, je vais me tourner vers vous maintenant. Enfin, je vais me tourner vers vous, je sais que vous êtes loin. On va aller du côté de Montélimar pour vous rejoindre, parce que vous êtes le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Grand merci, hein, vraiment Gilles Bonnefond, donc, d'être intervenu, parce qu'on ne pouvait pas imaginer, si vous voulez, cette discussion sans quand même avoir, évidemment, des pharmaciens donc avec nous. Si on frappe à la porte de votre officine à Montélimar, on verra alors à la fois une belle et vieille pharmacie qui effectivement ressemblait à celle des apothicaires, et avec donc des noms d'herbes, hein, je crois, encore sur les tiroirs, c'est ça?
Oh oui, c'est ça. Bonjour à tous. Oui, c'est une pharmacie qui est classée. Comment on rangeait les plantes dans des tiroirs, un plafond de plantes. Au plafond, il y a trois toiles de plantes peintes avec plantes médicinales. Alors, qui attend les plaintes à l'époque, voilà. Donc, c'est bien l'origine de la pharmacie, c'est bien la fille.
Alors, essayez de pas trop bouger, parce que je sais pas où vous êtes, là, dans un tunnel ou pas, ou bien au fond de votre armoire, je ne sais pas du tout. Mais là, c'est vrai que ça coupe un petit peu gentiment, et pourtant, on a besoin de votre parole. Alors, Gilles Bonnefond, après avoir posé, donc, ce très, très joli décor, quelle est, on va dire, votre position, donc, par rapport à cela? Est-ce que vous verriez, vous, d'un bon œil, qu'il y ait, avec, évidemment, une formation, hein, on parle bien d'une formation qui peut être importante, revenir, on va dire, ce qu'on appelait des herboristes de comptoir. Quelle est un peu votre position à vous ?
Les pharmaciens sont des herboristes, puisque dans la formation initiale, nous avons une formation qui nous permet de connaître les plantes, de connaître les champignons et de connaître surtout la santé. Parce que ce qui est important, ce n'est pas que de les connaître, c'est de savoir à qui parler, le risque d'interaction avec des médicaments, le risque d'effets secondaires, le risque du foie, d'atteinte du rein. Ouais, alors... Parce que ces plantes, par définition, elles...
Bon, ce que l'on va faire, Gilles Bonnefond, vous vous débrouillez comme vous voulez. Je sais qu'on n'a que votre portable là. Si vous dites ça à nos amis techniciens, parce que là, un mot sur trois, ça devient une espèce de quiz que l'on va remplir pour essayer de comprendre votre pensée. On voudrait pas du tout la réduire. Donc, on vous rappelle tout de suite. Et donc, j'ai demandé à Corinne Imbert. Corinne Imbert, vous êtes aussi donc vous pharmacienne. Est-ce que vous verriez donc aussi même question, parce que derrière tout ça, quand même en toile de fond, c'est est-ce que on va retrouver un jour un métier d'herboriste ? Quelles sont pour vous les limites de l'affaire, que répondre Corinne Imbert ? Là, je m'adresse plutôt à la pharmacienne que vous êtes.
Oui, alors, écoutez, les limites, c'est la santé publique et la sécurité des patients. Les plantes médicinales sont à l'origine, ont été les premiers médicaments et l'ont toujours été, il y a même encore quelques années, des médicaments remboursés à base de plantes. Donc, on ne peut pas oublier ça. Je comprends Joël qui... Je l'avais dit qu'on est des politiques, on doit regarder vers l'avenir, aussi on doit regarder vers le passé. Et les plantes sont la base de la pharmacie, ont été les premiers médicaments. Qui dit plante médicinale, qui dit principe actif, dit interaction possible. Et là aussi, il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a une liste de plantes qui ont été, pour lesquelles on a identifié des contre-indications avec des médicaments anticancéreux. Donc, pour moi, préserver la santé publique et garantir la sécurité des patients doivent rester des priorités. Et quant à la notion de santé, la notion de bien-être, il suffit de regarder la définition de la santé, définition par l'Organisation mondiale de la santé, donc quelque chose qui est difficilement contestable. Alors évidemment, elle est très large. Cette définition, c'est dire que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas un peu renverser les choses, pas dire que c'est le bien-être qui est proche de la santé. La santé, c'est tout ça. C'est à la fois du bien-être et effectivement, ne pas essayer de ne pas être malade, et en tout cas quand il y a une maladie, de pouvoir la soigner. Mais on a la phytothérapie, je comprends moi le retour à la nature souhaité par nos concitoyens, et en tout cas...
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, pour baliser, pour éviter, parlons directement, pour éviter, oui. Si vous voulez, des charlatans, des marchands d'espoir, des gens clairement. Effectivement qui vont vous donner des plantes alors que vous avez un cancer. Tout ça, on sait que ça ne marche pas. Jean-Marie Pelt, le premier d'ailleurs, l'a toujours dit, qui avait des choses qu'il ne fallait absolument pas faire lorsque l'on avait par exemple une chimiothérapie. Je prends des cas extrêmes, mais c'est quand même ça. Bon, est-ce qu'une formation pour ces, on va dire, je sais pas, pour ces paysans herboristes serait nécessaire, enfin
Oui, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a deux métiers. Il y a à la fois, effectivement, le paysan herboriste, dans le cadre d'une formation agricole, enfin voilà, encadrée et validée par le ministère de l'Agriculture, et qui, où on est bien sur un métier de producteur, de cueilleur. Et puis, il y a le métier, et mon collègue Bonnefond vient de dire, les pharmaciens sont des herboristes. Les pharmaciens d'aujourd'hui sont pas responsables.
Enfin, ils sont des herboristes, mais ils sont aussi devenus, enfin, entre guillemets, c'est pas honteux, ils sont aussi devenus un peu des chimistes. Moi, je rappelle effectivement que sans la chimie, on serait déjà tous morts. Donc, faut jamais l'oublier. Mais,
Exactement. La phytothérapie a profité des progrès de l'agronomie, de la chimie, de la pharmacologie, etc. Il y a une trentaine d'années, il y a un peu plus de 30 ans, quand certains laboratoires se sont intéressés à la phytothérapie. Et on nous ont présenté les plantes en gélules. Alors, on peut revenir sur le dosage des gélules, etc. Et prenez la valériane, qui est une plante permet de lutter contre les problèmes d'insomnie. Et ben entre une racine de valériane et puis une gélule de valériane, vous allez plus facilement prendre la gélule. C'est une plante qui sent excessivement
mauvaise. Alors, je suis obligé d'un peu de vous couper. Je ne vais pas rentrer dans des histoires de temps de parole, mais je suis un petit peu obligé parce que vous êtes donc deux sénateurs élus. Je me retourne vers Thierry Thévenin. Et après, je n'oublie pas Gilles Bonnefond, en espérant que le téléphone marche cette fois-ci. Thierry Thévenin, donc sur ce thème-là aussi, qu'est-ce que vous pouvez... espérer demain, on va dire, sur l'herboristerie, en comprenant bien que c'est un problème de santé, vous le savez, vous, par cœur, qu'il y a eu aussi pas mal de charlatans dans ce domaine, il suffit d'aller sur Internet et l'on comprend que c'est quand même tout et n'importe quoi. Donc comment on fait pour à la fois respecter ces problèmes de santé et qu'en même temps, je sais pas, vous puissiez peut-être donner un conseil sans forcément aller en prison, quoi, pour faire simple.
C'est un petit peu ça, oui. En fait, moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à faire en France ce qu'on a pu faire dans certains pays où on ne fait pas de fossé ou d'antinomie ou de bataille entre les pharmaciens, les herboristes, les producteurs, enfin tous les gens qui s'intéressent au bien-être et à la santé, parce qu'il n'y a pas de frontières. Les clients, je suis un peu désolé, mais des fois, ils s'en moquent un peu de toutes ces batailles qui durent depuis des siècles. Et aujourd'hui, effectivement, ils peuvent être la proie de charlatans, ça c'est vrai. Mais je crois dans tous les secteurs, y compris dans le secteur du médicament qui est bien encadré par la NSM, je pense que les charlatans, malheureusement, ils existent.
La NSM, excusez-moi, c'est quoi là?
L'Agence Nationale du Médicament.
D'accord,
ok. On a vu qu'il y a, enfin voilà, on sait bien qu'il y a eu des scandales, que même quand on prend de grandes précautions, il peut quand même y avoir des scandales. Donc je crois que aujourd'hui, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va arriver dans ce pays à effectivement un peu donner de la place à chacun, à donner un cadre. Les formations existent, les gens se forment, les gens sont formés dans le réseau du syndicat simple que j'ai longtemps animé, là, dont je suis toujours adhérent. On fait de la formation continue, il y a des sessions de formation qui sont proposées aux producteurs pour justement qu'ils comprennent leurs limites, qu'ils connaissent leurs limites. Sur le terrain, ça se passe bien. Franchement, il y a beaucoup de producteurs comme moi qui travaillent avec les pharmaciens ou les médecins locaux avec qui il y a des échanges. Il y a d'ailleurs des pharmaciens qui sont adhérents au syndicat des simples. On essaie de travailler avec eux. Donc nous, c'est ça. On espère que tout le monde se mette autour de la table. On peut citer le Canada, on peut citer la Belgique. C'est des pays où il y a des herboristes et c'est pas une catastrophe nationale.
Ça, on va y revenir. Mais on va prendre, tenez, un exemple. Si vous devez conseiller de l'huile de millepertuis contre les brûlures ou les plaies, ou bien de la tisane de bruyère contre les cystites, c'est interdit par la loi. En revanche, on peut vendre des gélules et des extraits concentrés de bruyère, mais pas de tisane.
Oui, et puis on est un peu dans un système d'hypocrisie. Il se trouve que je ne suis pas le seul, mais j'ai commis un ouvrage où je parle de propriété des plantes. J'ai le droit de le faire. J'ai le droit d'écrire un livre, j'ai le droit de le vendre. Et quand je suis agriculteur et que je produis mes plantes, j'ai plus le droit de dire ce que j'ai écrit. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu aberrant. Et on est encore une fois... pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais posé un seul diagnostic depuis 30 ans que je vends des plantes parce que c'est pas mon métier. Je suis pas formé pour ça. Je suis pas médecin. Je connais pas les médicaments. Donc, je pose toujours la question à mes clients de savoir s'ils prennent des médicaments en ce moment-là. Je les invite à retourner voir le pharmacien ou le médecin pour savoir s'il peut y avoir des problèmes d'interaction. J'en connais quelques-uns parce que, heureusement, il y a des sites internet, il y a des ouvrages qui permettent de connaître. C'est quelque chose, on en apprend tous les jours au niveau des interactions. Et là encore, je voudrais dire, pourquoi on fait deux poids, deux mesures avec les plantes? Il est évident qu'il y a des interactions entre les médicaments et l'alcool, entre les médicaments et le café,
ça, c'est sûr,
entre les médicaments et le pamplemousse, la fraise, et des interactions qui peuvent être graves. On va pas consulter un médecin ou un pharmacien, on va pas acheter ses fraises en pharmacie. Et qu'est-ce qu'on fait sur les médicaments? On va dire attention, il y a des risques d'interactions possibles avec l'alcool ou avec ceci ou cela. Il suffit de le faire avec les plantes. Je crois que les gens sont pas non plus, faut pas prendre les consommateurs pour des gens stupides.
Alors, retrouvons notre pharmacien Gilles Bonnefond, s'il vous plaît, donc à Montélimar, oui. Président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Sur ce thème, quelle est un peu votre position? On a bien compris que les pharmaciens sont un peu frileux, l'ordre des médecins aussi. Et s'il y a quand même des passerelles qui peuvent exister, Gilles Bonnefond?
Quand je vous entends, je vois qu'il y a Il y a deux choses. Il y a la culture, le producteur, où là, il y a des formations, et puis la connaissance des plantes, parce qu'on peut très rapidement confondre deux plantes. On a eu des cas très embêtants avec des mélanges de badiane chinoise et japonaise qui ont interdit la badiane pendant 8 ans en France. Et donc là, il y a une formation importante pour les producteurs. Après, dès qu'on rentre dans des intentions thérapeutiques, là, on ne peut pas aujourd'hui se passer du médecin et du pharmacien. Et je pense que si on crée une autre filière avec une autre personne qui peut conseiller avec des intentions thérapeutiques, on va complexifier le parcours du soin du patient et c'est extrêmement compliqué et on peut pas aller chercher les informations sur Internet ou sur des livres même scientifiques. Il faut faire très attention. Moi, je vois la difficulté qu'on a aujourd'hui sur des patients qui utilisent toute une série, qui n'opposent pas d'ailleurs la chimie et la phyto, mais quand nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que prend le patient. Est-ce qu'il prend de la phytothérapie? S'il prend du millepertuis, ça peut être extrêmement gênant, même pour la contraception pour une jeune fille. Alors que le millepertuis est très utilisé.
Il y a des femmes, c'est une réalité, effectivement, qui prenaient la pilule, qui ont pris du millepertuis, et elles ont eu un bébé millepertuis.
Tout à fait. Et ça, voilà, ça, ce sont des choses que l'on dit en pharmacie. On fait attention quand on conseille le millepertuis. Si c'est une jeune fille, on demande quel est son mode de contraception. Donc, c'est très compliqué quand on est sous du cancer où on a besoin d'apaiser. On sait que certaines plantes peuvent avoir des interactions avec les traitements. Oui. Donc, je pense qu'il faut rester sur les compétences à la fois du circuit avec le médecin, avec le pharmacien, dans un espace qui est réglementé et où les outils de contrôle fonctionnent. L'agence du médicament fait un énorme travail de contrôle sur l'utilisation des plantes et d'autres dispositifs autres que les médicaments. Et quand on veut être dans la sécurité, comme on doit l'être dans la santé, eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir, je dirais, des espaces où il pourrait y avoir une prise de risque.
Est-ce que vous seriez pour une formation diplômante scientifique pour des herboristes de comptoir, ou bien simplement une formation pour les paysans herboristes, on va dire producteurs-cueilleurs?
La seconde solution, c'est-à-dire que producteur-cueilleur, être capable de reconnaître, être capable de savoir faire sécher des plantes dans de bonnes conditions, savoir quelle partie de la plante on doit utiliser et telle autre qui ne doit pas être utilisée, pour les mettre en vente dans un circuit classique qui permet après de les mettre à disposition de la population avec un titrage de la plante et de ses principes actifs, avec derrière des outils permettant de reconnaître la plante pour éviter des confusions. Et on sait que c'est encore plus compliqué quand on a affaire à des mélanges. On doit sécuriser. Et quand on doit sécuriser, on doit être sur un circuit sécurisé, avec une filière, avec des responsabilités. Et la filière pharmaceutique, elle est extrêmement sécurisée, parce qu'à chaque étape de la chaîne, il y a un pharmacien qui est en responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics.
Thierry Thévenin, tu tiques un petit peu, là. Thierry Thévenin, tu tiques un peu.
Moi, ce qui me fait un peu tiquer, c'est que, par exemple, on peut faire l'expérience sur le millepertuis. Vous avez raison, il y a plein de problèmes d'interaction médicamenteuse avec le millepertuis. Or, vous pouvez acheter sur Internet, sur des sites de pharmacie, hein, pas sur des sites de producteurs, ni sur des sites de compléments alimentaires, sur des sites de pharmacie du millepertuis. Et là, vous faites un clic et vous mettez ça dans votre panier, et il n'y a personne pour vous avertir des interactions possibles. Donc, c'est ça qui me fait un petit peu
tiquer. Des conditions de dispensation des médicaments, puisque ce qui est accessible sur Internet, sur le millepertuis, c'est un statut d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Les conditions de dispensation, ça c'est les bonnes pratiques, doivent être identiques à celles de la présence au comptoir. Alors c'est pas toujours facile, et c'est pour ça que nous on est très réservés sur l'utilisation d'Internet, mais l'Internet pharmacie, à la limite, on peut les critiquer, moi je les critiquais parce que je trouve que le conseil n'est pas toujours aussi facile que le conseil quand on a le patient devant nous. Mais le plus dangereux, c'est les sites internet qui ne sont pas contrôlés. Mmh. Là, vous trouvez de tout.
Oui, ça pour tout, de toute façon. Oui,
pour extrêmement dangereux.
Acheter du camembert en Arkansas, on peut le faire aussi, etc. Joël Labbé, un petit mot avant de... Je vous en prie.
Oui, donc on peut tout acheter sur Internet, mais aussi en supermarché maintenant, on peut acheter des huiles essentielles. Tout ça, c'est parti. La véritable question. Alors, le docteur Bonnefond parle d'intention thérapeutique. Alors, au vu au niveau des auditions de la mission, la question des intentions thérapeutiques du côté des métiers d'herboriste, Thierry Thévenin pourra peut-être le confirmera sûrement, pas question d'intention thérapeutique. La demande, c'est pouvoir prodiguer les allégations traditionnelles.
Non, pas les allégations, quand même. Pas les allégations.
Oui, allégations traditionnelles, ouais. Et allégations de santé. Et pas allégations thérapeutiques. Il l'a dit tout à l'heure, Thierry Thévenin, le diagnostic, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des professions de santé. Oui. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être défensif du côté des professions de santé. Il n'y a pas du tout d'opposition. Moi, ce que je vois, c'est au contraire de la complémentarité des métiers, et que d'une façon intelligente, comme ça se passe en Belgique, on a auditionné une personne de Belgique, mais aussi du Canada, à savoir, en bonne intelligence, les professions de santé travaillent en lien avec les herboristes. Alors, on parle tout à l'heure des problèmes de cancer. Alors, Alors, les plantes médicinales peuvent aider, accompagner les traitements de cancer. Par contre, ça doit venir du cancérologue. C'est pas
l'herboriste. Ça vient de l'oncologue, hein, surtout.
C'est de l'oncologue.
Oui. Non, mais c'est ça. Oui.
C'est là où il y a la nuance. Alors, c'est pour ça que, pour moi, il faut arrêter de ces situations de blocage et faire en sorte que, de toute façon, je parlais tout à l'heure de non-droit, parce que il y a plein de plantes qui sont vendues complètement partout et sans aucun cadrage. L'idée de métier, justement, c'est formation diplômante, de telle sorte que tout cela soit cadré.
Musique. Taille Segal sur France Inter, Fanny Dog, c'était CO2, mon amour. Et tenez, on va retrouver une voix formidable qui est celle d'un homme qui était pharmacien, qui était agrégé de pharmacie, qui évidemment nous a régalé pendant des années en nous parlant de plantes. Bah, c'est Jean-Marie Pelt, et même si son cœur s'est arrêté de battre, eh bien sa voix, son âme sont là. Il va nous parler de quoi ? Vous allez voir, de la digitale. Eh bien, il est fini de chanter. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis.
Il va commencer à parler. Voilà, Jean-Marie est avec nous pour cet abécédaire de l'environnement. La lettre D comme digitale. Jolie plante aussi, la digitale.
Oui, je crois que la plupart des gens la connaissent. Elle est assez connue. Elle est très fréquente dans les massifs granitiques, la Bretagne, le massif central,
les
Vosges aussi, bien sûr. Elle forme des hampes florales d'un mètre à un mètre cinquante de hauteur, avec de très très jolies fleurs, dont la corolle a un peu la forme d'un doigt de gant. Mmh. C'est pourquoi on l'appelle aussi le gantelet de Notre-Dame. Et c'est une plante très ornementale, mais aussi à très forte propriété pharmaceutique.
Elle fait bon ménage avec les fougères aussi.
Alors, c'est pas une plante dont on connaît depuis très longtemps les propriétés.
Et dans c'est récent, c'est quoi, 16e siècle?
16e siècle, absolument. L'Antiquité l'a complètement ignorée. Et c'est une guérisseuse anglaise qui l'utilisait pour soigner l'hydropisie. L'hydropisie, c'est quand on a les jambes enflées parce que l'eau ne s'évacue pas, parce que le cœur n'a pas la force et l'efficacité pour faire circuler le sang.
La pompe ne fonctionne pas assez
la
fort.
La pompe ne fonctionne pas. Donc, on a découvert une guérisseuse anglaise, c'est un médecin, un observateur fin, qui s'appelait Dr. Whiting, qui est un anglais, qui avait appris qu'une guérisseuse était capable de soigner cette maladie que personne ne savait soigner. Alors, il a été voir la guérisseuse, et il lui a demandé quelle plante elle utilisait. Et il utilisait un mélange de plantes.
Donc il a voulu découvrir la bonne.
Quelle est la bonne? Donc il a pris chaque plante séparément.
Il a séquencé.
Il les a testées. Absolument, il les a testées. Ouais. Et il a vu que la bonne plante était la digitale. D'accord. Et il a essayé de l'employer. Il a eu beaucoup de mal parce que les principes toxiques et actifs de la digitale s'accumulent dans l'organisme. Donc trouver la bonne dose était très très difficile. Alors il a demandé conseil à un autre médecin dont le nom est célèbre, le docteur Erasmus Darwin, qui était le grand-père du grand Darwin, qui était un médecin lui aussi. Ben Darwin s'est emparé de la découverte et l'a publié à son nom, tout de suite. Ça se faisait assez chez les Darwin, il faut dire.
On piquait facilement.
Oui.
C'est dans les gènes.
C'est ça. Dans la famille Darwin, on l'a fait beaucoup, oui, sans aucun doute. Ce médicament s'est installé dans la thérapeutique et il a trois propriétés. Il ralentit les mouvements cardiaques en cas de tachycardie, il les renforce et il les régularise. Ça, c'est les propriétés classiques de la digitale. Elle est utilisée d'ailleurs dans cette indication-là. Mais il faut la bonne dose, parce que dès qu'on augmente la dose, elle devient extrêmement toxique. Et ces substances actives sont des substances toxiques, si bien qu'on parle de plantes cardiotoniques, mais on dit aussi des plantes cardiotoxiques. Et il n'y a pas que la digitale, elle a des cousins. Des plantes qui ont les mêmes propriétés et qui contiennent les mêmes substances.
Dont une plante que l'on offre au mois de mai.
Le muguet. Dont une plante que l'on plante abondamment dans le midi méditerranéen le long des autoroutes, le laurier rose. Oui. Dont une plante qui fleurit à Noël, donc chaque saison on est pourvu d'une, qui est la rose de Noël.
L'hélébore.
L'hélébore, la belle petite hélébore blanche, la rose de Noël. Voilà trois plantes. Toutes les trois très ornementales et toutes les trois très toxiques. Et toutes les trois actives de la même manière dans les difficultés cardiaques. Puis on pourra en ajouter une quatrième et dernière, c'est la cil. Mais celle-ci ne pousse que dans le bassin méditerranéen. C'est une plante qui donne un bulbe, qui produit un bulbe très important, un énorme bulbe, plus gros qu'un poing. Et dans ce bulbe, on trouve des principes actifs tout à fait voisins, de nouveau, de ceux de la digitale. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les anciens connaissaient les propriétés de la cil contre l'hydropisie, contre les jambes enflées. Donc, ils avaient au moins un médicament.
Qui était la cil avant la digitale.
Qui était la cil avant la digitale et qui permettait de soigner la fatigue cardiaque. Et
puisque nous sommes dans une séquence de connaissances, la cil, ça s'écrit S-C-I-2-L-E.
Et voilà, et c'est le plus ancien des médicaments de l'hydropisie. Les jambes enflées par la stase sanguine, déjà utilisée dans l'Antiquité et aussi au Moyen-Âge, dans cette indication, dans l'ensemble du bassin méditerranéen.
Et puis on va rappeler aussi que si vous croisez des digitales ou bien d'autres plantes, elles sont très bien en pleine nature. Hein. Ne les cueillez pas, ne les coupez pas, laissez-les là où elles sont, parce que il y a beaucoup, beaucoup de terrains comme ça qui ont été, je veux dire, labourés par les touristes, et c'est quand même pas terrible après.
Aujourd'hui, la digitale est cultivée.
Oui. Eh bien, merci Jean-Marie Pell, que votre cœur se porte bien.
Au revoir Jean-Marie.
Merci de tout cœur.
C'est toujours un plaisir, évidemment, de retrouver Jean-Marie. Thierry Thévenin, vous avez connu, bien sûr, Jean-Marie Pelt. Vous me disiez, en même temps, il y avait une anecdote tout à fait intéressante qui vous est arrivée il n'y a pas si longtemps, ça.
C'est pas à moi que c'est arrivé, mais c'est une des personnes qui a été auditionnée, qui a voulu faire un peu un test, c'est-à-dire qu'il a fait le tour des pharmacies qu'il y a autour du Sénat, juste avant son audition auprès de la mission, en demandant du bleuet. Alors le bleuet, c'est une plante qui est bien connue, mais ça c'est vraiment
C'est pour les yeux, non?
C'est pour les yeux, c'est le soin populaire. On a les yeux qui brûlent un peu, on peut faire des compresses, c'est rafraîchissant, ça soulage.
C'est-à-dire que si vous tapez 5 heures d'écran ou d'affilée, vous pouvez prendre du bleuet,
c'est une bonne idée.
Ça marche, d'accord.
Et du coup, en fait, il a fait une douzaine de pharmacies, il n'y en a aucune qui a pu lui fournir du bleuet. Et dans la moitié des pharmacies, on lui a dit, il faut aller à l'herboristerie ou il faut aller dans une biocoop pour la trouver. Alors que ce bleuet, il ne doit pas pouvoir s'y trouver normalement puisqu'il est en monopole pharmaceutique. Donc je veux pas faire de polémique, mais ça montre qu'effectivement il y a une situation qui est un peu incohérente et qu'il faut faire avancer. Par rapport au témoignage de Jean-Marie Pelt, les plantes toxiques, c'est vrai que c'est un problème effectivement, mais elles sont quand même bien connues et il y a des approches qui sont un peu intéressantes aussi qu'on peut regarder peut-être à l'étranger. En Espagne, ils ont eu une approche assez pragmatique. En fait, les plantes vraiment qui posent des vrais réels dangers, on les connaît depuis longtemps. Là-bas, ils ont fait une liste négative, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 espèces de plantes qui sont interdites à la vente en dehors dehors de la pharmacie et en dehors d'un cadre pharmaceutique. Parce qu'on sait que c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Donc je pense qu'il y a plein de choses à aller voir ailleurs, à s'inspirer pour faire avancer les choses. Puis en espérant peut-être qu'un jour en Europe, tout ça s'harmonise, quoi. Parce que il y a une culture européenne des plantes qui est très ancienne et je crois que les gens, ils attendent vraiment une transition là aussi, hein, en matière de plantes.
Et j'ai vu qu'au Québec, il y avait quand même un pont vraiment assez fort entre la médecine, bien sûr, et les herboristes.
Oui. Il y a un mouvement qui s'appelle la Guilde des herboristes qui a été créé dans les années 90. Mais c'est pas la même culture. Il y a pas le même passé historique un peu douloureux qu'on a eu avec les herboristes en France, parce qu'il y a vraiment une histoire qui est compliquée. Ça serait un peu long à expliquer, mais c'est assez douloureux et ça a laissé pas mal de traces. Là-bas, ça n'a pas existé. Donc, ils n'ont pas eu de mal de se mettre autour de la même table. Santé Canada, la Guilde des herboristes avec le monde de la pharmacie. Et ils sont arrivés à une position de consensus.
Il faut dire que c'est parti en 1941. Hein. C'était un peu chaud quand même, comme période, bien évidemment. Corinne Imbert, est-ce qu'il n'y aurait pas justement, alors, là aussi, quand on parle de formation, peut-être très rapidement, peut-être l'exemple de la pharmacie de Paris-Descartes, qu'est-ce qui se passe là-bas, justement?
Oui, la faculté de pharmacie de Paris-Descartes réfléchit à la mise en place d'une licence professionnelle de phytothérapie qui serait ouverte à des professionnels de santé, paramédicaux, comme les infirmières, comme des préparateurs en pharmacie. Donc ça serait effectivement une bonne piste. Ils sont en train de travailler sur cette licence professionnelle, elle n'existe pas encore. Je pense que ça pourrait être intéressant, à condition qu'ensuite ces professionnels qui sont issus sont des professionnels de santé travaillent, je pense, sous la responsabilité.
Donc ce que l'on entend, c'est que pour vous, il faut qu'ils soient de toute façon au départ des professionnels de santé.
C'est ce que nous a expliqué la faculté de pharmacie.
Gilles Bonnefond, s'il vous plaît, notre président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Donc peut-être un petit mot aussi, je veux dire, de conclusion par rapport à tout cela. On voit bien quelle est votre position, on voit bien quelles sont les réticences, voilà, parce que la santé avant tout, oui, il faut demander, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un peu en train de craquer quand même en ce moment.
Je suis pas sûr que ça craque. Ce que je crois, c'est que il faut être dans la sécurité maximum. On ne peut pas se permettre d'être dans des zones de flou. Aujourd'hui, on doit la sécurité quand on est dans le champ de la santé. Donc, un diplôme hors sol, pour moi, ne serait pas garant d'une meilleure sécurité.
Non, mais un diplôme qui n'est pas hors sol. C'est-à-dire,
Oui, mais fais-moi hors sol, ça veut dire qu'il est dans une filière où, si ça dépend du ministère de la Culture, ça dépend pas du ministère de la Santé. Donc ça devient un petit peu compliqué à contrôler. On a vu ce qui peut se passer sur des systèmes où on a des frontières et où on ne sait plus qui est responsable. Donc, renforcer la phytothérapie, c'est l'origine de la pharmacie. Ah oui. Merci pour ce moment adorable avec Jean-Marie Pelt, pharmacien. C'est vraiment toujours très agréable de le réécouter. Et on voit bien que lui aussi, il connaissait très bien, il savait très bien que les plantes mal utilisées, ça pouvait avoir des effets néfastes.
Ah, ça, il l'a dit plein de fois.
Hein. Oui. Voilà, donc restons sur la partie agriculture, la partie, et dans le département de la Drôme où j'ai ma pharmacie, on voit bien que la filière est en train de se développer et elle se développe parce que derrière, il y a des circuits qui permettent de mettre à disposition des plantes bien dosées et avec un conseil parfaitement adapté.
Donc, vous êtes dans un département qui est assez en avance, entre autres avec la Biovallée, hein, donc où là, il y a quand même des cultivateurs de simples, comme on dit, de très belle et grande efficacité. Un petit mot de fin, Joël Labbé, s'il vous plaît.
Oui, bon, tout va bien continuer. J'entends dire, il faut surtout pas changer. C'est une véritable question. Les filières liées à l'herboristerie, il y a un véritable potentiel de développement extraordinaire. N'oublions pas qu'il y a 80% des plantes que l'on importe. Oui. Donc il y a des filières courtes à conforter, à développer. Il y a une demande extraordinaire par rapport à ça, en lien avec les paysans herboristes. Mais il y a aussi une autre filière un peu moins courte avec des grossistes qui sont intermédiaires. On a quelque chose d'extraordinaire. Avec aussi nos outre-mer dont on n'a pas parlé, mais 80% de notre biodiversité est dans nos outre-mer. Donc ce côté-là, c'est extraordinaire. Bon, les recommandations du rapport vont être proposées à nos collègues sénatrices et sénateurs d'une façon pluripolitique. Ce que je propose à Corinne Imbert, avec qui je travaille bien,
oui,
j'apprécie de travailler avec elle, à savoir, il faudrait qu'on puisse continuer sur la question des métiers parce que on n'est pas rendu au bout, on sait qu'il n'y a pas consensus, ce qui serait bien d'une façon pluripolitique, qu'on continue de travailler en co-construction d'une proposition
de loi. Sénateur Vert, sénateur LR, tout va bien. Voilà.
voilà. En lien avec les professionnels du terrain, tous les professionnels du terrain. Et c'est comme ça qu'on va gagner, c'est comme ça qu'on va avancer dans l'intérêt général.
Merci à tous, merci beaucoup. Merci à Mathias Saléon à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, notre assistante, à Marie-Hélène Fauquet qui réalisait l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques. Semaine prochaine, écoutez, on va changer donc de registre parce que je vais vous emmener en reportage sur l'île Madame et aussi du côté de Rochefort, du côté de ce merveilleux et grand lagunage. Donc on se rend en Charente-Maritime. Ça va être quasiment, je vous le disais, quasiment un tout reportage. Le podcast, abonnez-vous au podcast de CO2 Mon Amour et aux autres podcasts de France Inter. L'Atelier du Mont Petit Loup, ce sera 19h54 demain après les petits bateaux. Je vous souhaite, en vous le disant avec des fleurs et avec des plantes, un excellent week-end.